France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Son architecture a rendu très vite possible l'idée qu'on pourrait faire autre chose de cette prison.
Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était le côté mémoriel de la prison. J'y ai passé 25 ans.
Et puis après, les gens et le patrimoine, quand on a discuté avec tous ces anciens détenus, anciens surveillants, voilà, on s'est dit, en fait, on ne peut pas faire sans eux.
J'avais trop peur du mur d'escalade et du barrage, quoi. En plus, on est à Rennes, donc c'est une ville cool, on met des palettes et des tireuses à bière, et voilà, ça va être cool dans une prison.
Un hôtel 3 étoiles avec piscine et vue panoramique sur la ville, c'est l'étonnante nouvelle fonction de l'ancienne prison de Béziers dans l'Hérault. Certains clients repartent ravis de cette expérience hors du commun, d'autres regrettent que les cellules transformées en chambres n'aient toujours pas la clim. À Grasse, dans les Alpes-Maritimes, les prochains pensionnaires de l'ancienne maison d'arrêt seront des étudiants. À Meaux, la prison fermée il y a 20 ans a rouvert ses portes cette année, métamorphosée en cité de la musique. Les reconversions de centres pénitentiaires sont de plus en plus fréquentes. Nombreux sont les sites devenus vétustes et inadaptés à l'accueil des détenus. Pour lutter contre la surpopulation carcérale, on leur préfère la construction de nouvelles prisons, y compris en préfabriquées. Que faire alors de ces bâtiments au passé chargé? Certains sont tout simplement démolis et ces milliers de mètres carrés libérés dans la ville bien vite réaffectés. Parfois, une porte d'entrée, un mur d'enceinte sont conservés. D'autres sites sont, eux, réhabilités et connaissent des destinées variées, campus, médiathèques ou encore centres commerciaux. À l'issue de ces chantiers, que reste-t-il de l'histoire des lieux? La mobilisation est forte pour sauvegarder le patrimoine architectural. L'est-elle autant pour entretenir le souvenir de ceux qui ont vécu entre ces murs? Qui étaient-ils? Pourquoi et dans quelles conditions se sont-ils retrouvés enfermés? Et quelle place occupait alors la prison dans la ville? Autant de questions que les chercheurs ne veulent pas voir balayées. Prison désaffectée, des friches pas comme les autres, c'est un reportage signé Chloé Le Prince. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Vous êtes allée dans trois prisons au détour de la réhabilitation. En fait, c'est posé la question de la transmission de cette histoire carcérale.
Oui, trois lieux, Rennes en Ille-et-Vilaine, Guingamp dans les Côtes-d'Armor et Autun en Saône-et-Loire. Trois lieux où il se passe quelque chose à l'occasion de la réhabilitation de la prison, avec à chaque fois une forme de tension entre, d'un côté, des mètres carrés disponibles, du foncier, on parle aussi d'argent public, là, puisque les mairies rachètent la prison. Une fascination, on le voit bien avec les journées du patrimoine, mais pas seulement. Il y a une forme de fascination pour l'histoire carcérale. On va voir que c'est pas forcément l'histoire tout court du lieu. Et puis, des craintes qui peuvent surgir sur le risque d'effacement d'une histoire du lieu, mais aussi de ses occupants, de celles et ceux qui ont vécu à l'intérieur des murs.
Alors, l'historienne Mathilde Rossigny-Meust est avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Lyon 2, chercheuse au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, membre de l'Institut universitaire de France. Et parmi vos thèmes de recherche, il y a l'histoire des institutions disciplinaires. Les lieux d'enfermement vous sont donc familiers. Et nous allons tout de suite pousser la porte d'une prison. Le reportage de Chloé Le Prince nous emmène d'abord à Rennes.
Quand j'ai pris mon poste, on m'a donné un sachet Super U avec 25 clés et aucune ouvre.
Jacques Cartier à Rennes, c'est le nom d'un quartier en pleine gentrification et c'est aussi le nom d'une prison bien connue des Rennais. La métropole de Rennes l'a racheté 550 000 euros en 2021 pour en faire un lieu culturel et citoyen, mais rien n'est encore tranché quant à ses nouveaux usages. Valentine Roy est responsable du projet de reconversion.
Il y a une seule porte.
Mais peut-être que demain, il y en aura plusieurs. Ça fait partie des défis, c'est de dire, pour nous, le mur, il aide à comprendre ce qu'est une prison. Et en même temps, si on le laisse complètement entier, on ne travaille pas cette porosité urbaine. On est aussi sur deux quartiers dont le profil sociologique est assez opposé, avec d'un côté un quartier plutôt aisé et de l'autre un quartier plutôt populaire. Et donc, ça fait partie aussi des sujets d'ouvrir le site et de le rendre... pour eux, comme on dit, à la ville. Et ça, ça impliquera sans doute d'ouvrir à plusieurs endroits.
Les graffitis sont de l'époque. Crève la tôle. Ça, c'était une cellule ou c'était
non, déjà c'est donc un endroit de passage de ce qu'on appelle grand quartier vers les cours de promenade.
Le site au sol fait 1,3 hectare. Il y a 10 000 m² d'extérieur et environ 20 000 m² de surface mobilisable. Quand vous avez une surface comme ça, si grande, un bâtiment qui date de 1903, bien sûr que ça coûte beaucoup d'argent.
12 000 personnes ont fait la queue devant l'ancienne maison d'arrêt en 2022 pour la toute première ouverture aux Journées du patrimoine.
Finalement, rien n'était vraiment en ruine ?
Non.
On ne peut pas dire ça, effectivement.
Dès que des idées architecturales ont pu être posées et qui interrogeaient le bâtiment, tout de suite les Rennais se sont manifestés en disant non, on ne peut pas démolir ce patrimoine parce qu'il est beau, parce qu'il a l'histoire qu'il a.
Quand vous pénétrez là la première fois, vous avez quoi en tête ?
On a posé trois actes en fait. Les portes ouvertes, en se disant l'activation du site, ça va vraiment être un point de départ et on va tester le site au maximum, l'ouvrir et tester ses usages. Ça, c'était le premier point. Le deuxième axe, ça a été une étude historique et patrimoniale qu'on a lancée, qui nous a permis effectivement d'avoir un diagnostic sanitaire du bâtiment et d'avoir une première monographie de l'histoire du site, parce que les documents étaient épars. Et puis le troisième axe, ça a été effectivement cette étude urbaine et culturelle qu'on a lancée, qui comprenait une première démarche de concertation, qui, elle, avait vocation surtout à définir ce cap, à préciser cette vocation culturelle et citoyenne.
Donc, dans les traces, il faut faire attention, il y a certains documents qui sont issus.
C'est comme historienne et citoyenne que Gaïd Andro a participé à cette concertation.
La prison est rachetée par Rennes Métropole. On apprend qu'elle va être transformée en un lieu culturel et citoyen. Toute seule, un peu, je me dis, j'ai trop peur d'une reconversion qui soit une reconversion d'effacement. Finalement, après, en grattant un peu, je me suis rendu compte que c'était un peu ça qui s'était passé dans toutes les autres villes où ces maisons d'arrêt, elles ont fermé. Enfin, Nantes, ça a été rasé. Avignon, c'est devenu une crèche et des logements. Béziers, c'est devenu un hôtel de luxe. À Fontainebleau, c'est devenu une cité universitaire. À Lyon, c'est devenu une université, des logements et des bureaux. Donc, en fait, il y a plein de villes comme ça qui ont reconverti leur prison. Et toujours avec ce moment un peu transitoire où, en gros, pendant quelques temps, on récolte les mémoires, en disant « c'était quoi l'histoire de la prison ?» Puis hop, une fois que les gens ils ont bien vidé leur sac, on passe à autre chose, et puis on construit un vrai bâtiment qui va servir à quelque chose. Disons que je trouvais que c'était dommage de ne pas saisir l'opportunité dans une ville comme Rennes, où il y a une vraie histoire carcérale, parce qu'il y a aussi le centre pénitentiaire des femmes, qu'il y a un tissu associatif très développé sur le monde carcéral, enfin que c'est une histoire rennaise, quoi. Comme par ailleurs, moi, ça m'intéresse de faire de l'histoire et de la médiation de l'histoire dans l'espace public, je me suis dit « mais est-ce qu'on pourrait pas, nous, imposer un peu la recherche en sciences sociales dans ce lieu ?» pour pas seulement penser du recueil de mémoire qui accompagne la patrimonialisation et l'effacement, mais plutôt penser à un vrai projet de recherche scientifique, transformer ce lieu en un lieu plutôt d'intelligibilité collective. J'avais trop peur du mur d'escalade et du bar à jus, quoi. En plus, on est à Rennes, donc c'est une ville cool, on met des palettes et des tireuses à bière, et voilà, ça va être cool dans une prison.
C'est un architecte qui s'appelle Jean-Marie Laloy, qui avait donc un nom prédestiné, qui était architecte départemental et qui a construit cette prison en 1903. Et on est sur une façade qui est délibérément positionnée au nord et délibérément écrasante pour celui qui arrive par l'unique porte d'entrée qui est derrière nous. Et cette façade, elle est en schiste rouge, qui est un matériau vraiment local. Il y avait 180 cellules pensées au départ sur un bâtiment en forme de croix latine. La capacité du site à être traversant, c'est très tentant ici d'en faire une rue passante. Est-ce qu'on y arrivera ? Est-ce que les usages le permettront ? Est-ce qu'il est trop tôt pour le dire, en fait ?
Est-ce que vous savez déjà ce que ça devient ici, par exemple ? On en est où de la projection ?
Non, aujourd'hui, on essaye de travailler les usages, les enjeux, et on n'est pas encore dans l'approche architecturale. La question, ça va être comment est-ce qu'on garde un séquencement qui fait qu'on comprend qu'on est dans une prison ? Et il y a des activités qui pourront trouver leur place dans une surface petite. Mais peut-être qu'il va falloir rassembler des cellules. À quelles conditions on peut le faire ? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui vont être devant nous.
Voilà.
Donc les détenus nouveaux arrivants, ils arrivaient par là ?
Ils arrivaient tout automatiquement par là. Le premier passage, c'était au greffe. C'est la première mesure, c'est au greffe, on va vérifier.
Alain Hamon a travaillé à Jacques Cartier, il était surveillant de prison.
Ce qui était impressionnant quand on rentrait, c'est que vous voyez, là, ils ont coulé une dalle de béton pour faire un gymnase. Quand je suis arrivé, il y avait une espèce d'amphithéâtre en bois. La seule activité, c'était la messe, le dimanche. Le dimanche, il y avait deux messes, et en général, il y avait une centaine de détenus à chaque messe.
Vous avez commencé quand dans cette prison ?
En 1970. J'avais 21 ans, voilà. 21 ans. J'y ai passé 25 ans. La prison a toujours fait partie de mon environnement. Quand Rennes Métropole a mis en place des groupes de travail pour réfléchir sur la destinée de Jacques Cartier. Jacques Cartier, c'était pratiquement ma vie, donc j'étais intéressant. J'ai fait partie de ces groupes de travail. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était le côté mémoriel de la prison. C'est qu'il y a une partie de la prison qui reste le côté pour l'histoire de la prison. Le reste aussi, ça m'intéressait de savoir que ça ne soit pas livré aux promoteurs et que ça soit un lieu d'accueil, artistique. Mais mon principal souci, moi, c'était quand même le côté mémoriel de la prison. Donc là, nous rentrons dans cette porte-là qui donne sur la... Voilà, très peu changé d'ailleurs. Enfin, c'était une porte en bois aussi. Avec
après une première expérience improvisée aux Journées du patrimoine, Gaïd Andreau et Fanny Le Bonhomme ont créé l'association Quartier Libre pour faire de l'histoire autrement. Fanny Le Bonhomme, historienne.
L'idée, c'était de faire la recherche sur ce lieu, de faire l'histoire de ce lieu, et parallèlement à ça, de faire de la médiation. On l'a compris parce qu'on a été assez rapidement sur place, confronté à des questions, confronté à un public, confronté à des visiteurs. C'est-à-dire que très vite, en fait, on ne s'est pas enfermé dans les archives pour faire l'histoire de cette prison. Très vite, on a été confronté aux anciens surveillants, aux anciens détenus, aux voisins qui posaient des questions, qui parlaient. Et le fait d'être dans l'espace public, tous ces questionnements, ces discussions, ces représentations, en fait, ça nourrit la construction de l'objet de recherche. Et c'est après, donc on était au départ dans un diptyque un peu médiation-recherche. En fait, la participation s'est imposée à nous. On voulait faire une collecte de sources orales. Et puis après, les gens ont eu patrimoine, quand on a discuté avec tous ces anciens détenus, anciens surveillants, voilà, on s'est dit, en fait, on peut pas faire sans eux. C'est-à-dire que le fait d'être in situ, on s'est trouvé face, en fait, à l'impossibilité même de faire cette collecte de sources orales sans eux.
Nous, ça a changé complètement notre posture, notre manière d'envisager notre travail.
On a lancé la collecte avec des binômes et à chaque fois, il y avait un chercheur en sciences sociales et un ancien de la prison qui allait interviewer un ancien de la prison. On prépare les entretiens à deux, donc chercheurs et anciens détenus, anciens surveillants, anciens soignants, etc. On les mène à deux et ensuite on débriefe à deux. L'idée, c'est vraiment que du début à la fin, les co-chercheurs, qui ne sont pas des chercheurs de métier, sont impliqués dans la recherche participative.
Une méthodologie qui déplace les deux historiennes.
Ça oblige, en fait, à repréciser pour soi-même qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'histoire. Ouais. À la fois, c'est un peu vertigineux et parfois un peu questionnant, mais d'un autre côté, en fait...
C'est très exigeant, en réalité.
Et notamment sur la réflexivité. Enfin, moi, je n'ai jamais autant réfléchi sur le sens que je donnais à mon travail qu'en faisant du participatif. Parce que tu te dis, tout ce que tu peux faire ressortir. Est-ce que tu as envie de poser cette question ? Qu'est-ce que ça va faire ressortir chez les gens ? Et puis, je la pose à côté d'un ancien détenu, d'un ancien surveillant. Enfin, on se pose plein de questions éthiques.
On peut s'asseoir ?
Oui, voilà. C'était au tout début, en 70. Cette cellule a servi aux condamnés à mort. C'était fermé, là. Et là, j'ai rencontré les deux historiennes. Alors, au départ, j'étais un peu réticent. Parce que, des historiennes, des universitaires, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que. Pour le peu que j'avais côtoyé quand même des universitaires, souvent, ils ont un langage abscons. Puis je me disais, qu'est-ce qu'un petit surveillant qui a son certificat d'études va faire avec ces gens-là ? Donc, j'avais peur que ça soit trop intellectualisé. Je ne sais pas si je suis clair, mais j'avais un peu cette appréhension-là. Très, très vite. Elles m'ont rassuré et puis je suis partie prenante maintenant pour le travail qui va être fait. Oui.
Il faut savoir si ça a bien changé là.
Et la semaine prochaine, Alain Hamon ira aux archives départementales.
Là, j'ai des objectifs bien précis parce que les historiennes m'ont montré un cahier, un de mes anciens cahiers, en tant que gradé. On avait des cahiers d'observation que chaque surveillant devait remplir à l'époque. Et j'aimerais bien les retrouver pour voir un peu ce que je pouvais raconter à l'époque. Quoi. Déjà, ça me permettra de voir l'évolution. Mais aussi de voir les autres cahiers d'observation, ça m'apporte une réflexion par rapport à l'évolution de la peine, de ce qui s'est passé à l'intérieur de Jacques Cartier. Donc le travail aussi de recherche, ça m'intéresse aussi. Mais c'est sous la direction des historiens, c'est leur boulot quand même.
à Guingamp, dans les Côtes-d'Armor. On visite aujourd'hui ce qu'on appelle la dernière prison humaniste. Professeur d'histoire dans le bâtiment désormais réhabilité, Emmanuel Lahotte s'est confiné aux archives pendant le Covid pour enquêter sur l'histoire de cette prison.
Alors on est dans le bâtiment des hommes, dans les bâtiments des hommes condamnés. C'est lié à une circulaire de 1836 en France qui vise désormais à séparer les détenus selon leur statut et leurs conditions. On ne veut plus avoir des dortoirs communs, on veut améliorer notre politique pénale en séparant les détenus. Et donc quand cette prison est construite, elle est construite au moment de cette réforme carcérale, et donc elle applique cette réglementation. Ces petites prisons-là, c'est des petites prisons dites d'arrondissement. Chaque sous-préfecture avait sa petite prison pour des prisonniers de droit commun, pour des petites peines. Et ça, ça va durer avant que la peine de sursis, qui intervient à la fin du 19e, intervienne, et que ces prisons-là soient de moins en moins utiles pour qu'on ait beaucoup plus de prisons centralisées au chef-lieu. Et donc, au fur et à mesure, ces prisons, elles sont détruites. Celle-là, son histoire est un peu particulière, parce qu'effectivement, elle traverse et elle perdure jusqu'en 1952. Je pense qu'on l'explique peut-être par son architecture, parce que quand même l'architecte qui est à l'origine vraiment de cette prison s'appelle Louis Laurin, donc c'est l'architecte départemental, donc il dépend de la préfecture hein, en 1836. Il est en train de penser à une prison qui se veut très très pratique. Il choisit du bois, il choisit quelque chose d'ouvert. On n'est pas sur une galerie fermée, on est sur une galerie ouverte avec une multiplicité de cours de prison, justement pour que chaque catégorie de détenus puisse sortir en cours de promenade et travailler, eh bien son architecture a rendu très vite possible l'idée qu'on pourrait faire autre chose de cette prison. Et puis son histoire aussi, elle ferme en 1934 une première fois. En 1937 et en 1939, elle reçoit des réfugiés espagnols. On a une photographie qui est très très belle, je peux vous la montrer, où on voit ces familles qui étendent du linge sur la galerie. Cette photo, c'est une photo de classe, quoi, en gros. Hein. Donc, dans l'idée déjà, des Guingampais, hein, ce lieu déjà a une autre fonctionnalité, quoi. Et puis, la Seconde Guerre mondiale, elle joue aussi son rôle. Cette prison-là, elle va rouvrir en 1941. C'est pas politique en 1941. Mais à partir de 1943, dans les registres des archives départementales, on voit apparaître des mentions politiques. Et donc, elle va ensuite avoir, dans l'esprit de tous, cet aspect mémoriel qui va jouer un rôle très très important. Ça viendra beaucoup plus tard, hein. Elle ferme définitivement en 1952, et ensuite l'État n'en a plus besoin, hein, et revend la prison au département, qui en fait un lieu qui lui sert de... C'est un lieu de stockage, hein, voilà. Mais c'est aussi un lieu qui va servir de douche municipale. Il y a des gens qui se souviennent encore, ici à Guingamp, d'avoir pris des douches. Et puis donc, ce lieu va continuer pendant toute cette longue période. Et au moment où il s'effondre et qu'on dit ben, faut la détruire, cette prison, eh bien, le ministère de la Culture, par la DRAC, va commencer à dire « Ah non, attendez, quand même, on a là quelque chose qui est un peu exceptionnel. On va avoir une inscription à l'inventaire. » Et on va avoir un classement en 1997 comme monument historique. Et là, ça y est, le déclic est là, quoi. Alors, juste, on va descendre, parce que comme ça, on va pouvoir montrer. Il faut juste que je ferme les portes, parce qu'il y a beaucoup de visiteurs.
En 1992, quand la mairie rachète la prison, elle est dans un état déplorable.
Ça va rester pratiquement pendant 30 ans comme ça, ouvert de temps en temps pour les journées du patrimoine, et puis personne n'y vient. Donc la végétation avait pris ses droits, des fragilités effectivement structurelles qui commençaient à apparaître.
D'abord adjoint, puis maire de Guingamp depuis deux mandats, Philippe Le Goff a longtemps joué le guide aux journées du patrimoine.
Un projet de restauration avec une fonction devient assez rapidement polémique. On parle quand même de montants entre 5 et 8 millions d'euros. Tout de suite, c'est quelque chose qui vient télescoper les élections municipales de 2014, un petit peu avec les pros projet de continuer ce qui a été fait, parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, des vertus, porte d'entrée territoriale sur le tourisme, qui raconte aussi une histoire du patrimoine très différente. Et puis, le fait que nourrir une restauration sans fonction, c'est pas rentrer dans l'appropriation du public. Ça rentrait aussi dans un cadre un peu plus général. On en était en 2014 à ce qu'on appelait à l'époque la dévitalisation des centres-villes. Guingamp était historiquement une ville de pierre, et dans ce cadre-là, il fallait trouver des leviers qui soient des leviers d'attractivité, qui rentrent réellement en cohérence avec la façade de la ville. Et comment est-ce qu'on faisait pour à la fois réattirer des nouveaux publics, comment est-ce qu'on faisait aussi pour faire en sorte que cette ville devienne désirable. Et un des leviers que j'avais identifié, c'était effectivement le levier du patrimoine, considérant qu'à travers ce patrimoine, ça permettait aux personnes de rentrer dans la carte postale et de rentrer dans cette histoire. Et ça venait aussi redonner de la fierté sur des édifices très forts qu'on pouvait avoir. Et ça faisait société, ça faisait histoire, et c'est là où c'était intéressant.
Depuis 5 ans, Guingamp, qui n'avait jamais attiré de touristes, regagne des habitants.
On était à l'interface d'une discussion sur le patrimoine, la restauration, mais une restauration avec une fonction. L'idée, c'était de ne pas venir visiter quelque chose qui n'ait pas d'autre fonction, qui soit une coquille vide, en fin de compte, ou juste de la pierre pour de la pierre. Et ça a été, in fine, aussi un vrai défi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à conjuguer les différents publics pour faire en sorte que le site ne devienne pas le lieu d'appartenance de telle entité ou de telle autre, mais qu'il puisse être effectivement celui du visiteur qui vient voir le centre d'art visuel, celui de l'étudiant qui vient étudier aujourd'hui à l'INSEAC, ou celui du visiteur lambda qui, en tant que touriste, a entendu parler de ce site remarquable et veut le visiter. Donc là, vous avez effectivement toutes ces cellules.
Vous en avez conservé combien en tant que cellules visitables ?
On en a 3 sur chaque étage. Puis on en a quelques-unes. Ici, on a une quatrième qu'on a conservée et qu'on utilise comme cellule d'exposition. Donc ça, c'était la cellule courante, avec au départ la particularité d'y mettre plutôt pour dormir des hamacs qu'on accrochait.
Est-ce que vous avez eu des privés qui ont proposé de racheter la prison ?
Non. Elle était dans un tel état qu'à mon avis, ça faisait rêver personne, pour être tout à fait sincère.
Par contre, le nombre de propositions qu'on a eues, mais qui étaient des idées qui émanaient de beaucoup, c'était de se dire que ça pouvait se transformer en hôtel. Il y avait une espèce d'exotisme là qui aurait été complètement plaqué. C'est-à-dire, on va dormir en prison comme si on allait mener une expérience un peu particulière. Mais c'était parfois des propositions qui nous étaient faites.
Et ça claque, hein, les portes, c'est les mêmes. Hein. Alors là, vous êtes dans une cellule à pistoles. C'est la plus belle.
Le prisonnier sur lequel Emmanuel Lahaute a le plus travaillé est un certain Basile, un Russe multirécidiviste.
Et là, donc, on est dans un des espaces qui ont été dédiés au public, où on a mis en place des totems qui racontent l'histoire de la prison de façon simplifiée. Le but, c'est de permettre à tout visiteur de connaître l'essentiel. Et puis, s'il veut en connaître plus, on lui met des QR codes. Voilà, votre Basile qui vous intéresse, il est là. C'est l'as de l'évasion que l'on voit là. Là, c'est la photographie de son registre d'écrou. Et donc, voilà, le registre raconte toute sa vie. Et j'ai des étudiants qui ont travaillé un escape game sur le roi de l'évasion. Des étudiants de M1 qui se sont amusés donc à l'aide d'un plan original. C'est mon document d'archives préféré. C'est le plan de Louis Lorrain. On va le mettre dans le bon sens. Et donc, on a reconstitué le parcours d'évasion de notre ami Basile. Voilà. Ils ont une option avec moi sur l'éducation au patrimoine de proximité. Et pendant 2 ans, on a repris les éléments sur la prison pour préparer des médiations au grand public ou des médiations auprès de publics scolaires.
À Rennes, la compagnie de théâtre La Morsure a rejoint le projet d'histoire participative. Christophe Lechevillier est comédien-improvisateur. C'est la 3e fois qu'il entre à Jacques Cartier.
Pendant la visite, en fait, tu passes ton temps à halluciner sur la violence du lieu et sur la beauté. Nous, on travaille beaucoup sur l'idée des beautés contraires. Et c'est vrai que cet endroit-là, il est vraiment sur une beauté contraire. C'est la culpabilité de ressentir des émotions positives dans un lieu atroce, quoi. Et ça correspond finalement à notre esthétique.
Puis le cadre et la liberté, la contrainte et l'improvisation.
Marie Parent, de la compagnie La Morsure.
La question du cadre dramaturgique justement et de l'invention des auteurs, des autrices à l'intérieur de ça.
C'est pas un endroit thérapeutique, c'est pas un endroit d'exorcisation. En tout cas pour nous, c'est pas ce qu'on cherche du tout. Mais c'est quand même un endroit où on va trouver de la beauté dans des récits qui parfois sont vraiment très violents ou très difficiles. Et comment après, à l'intérieur de ça, on arrive à en même temps être fidèle à ce témoignage et en même temps à être complètement dans une infidélité à cause de la mise en scène.
À la fin du texte, vous vous arrêtez là où vous êtes. Arrêtez-vous. Essayez de retrouver une certaine neutralité. Soyez bien dans vos appuis. Voilà, on respire.
Le pari est de redonner la parole aux auteurs et aux autrices qui sont au plateau. Donc nous, on est une forme de méta-auteur, méta-autrice du spectacle. Et à l'intérieur, les comédiens et comédiennes ont la liberté d'avoir le fin mot, un certain fin mot de l'histoire, quoi.
Et c'est vrai qu'au début, comme c'est Gaïd et Fanny qui sont venus nous chercher dans ce projet, il y avait l'idée, nous, comme on aime aussi travailler sur une sorte de commande, de se mettre au service de l'histoire. Et on était très écrasés aussi, nous, au niveau professionnel et artistique, par cette notion de l'histoire avec un grand H. Et en fait, il a fallu aussi que Fanny et Gaïd nous forment et nous détendent par rapport à ce propos-là. On voulait vraiment essayer de trouver une sorte de fidélité, d'être à la hauteur de l'histoire. Et en fait, l'histoire, elle est à la hauteur d'homme dans ce projet.
Serge, tu vois, t'es là. Bon, là, tu rentres dans le bureau. Non, parce qu'en fait...
Il peut y avoir des formes d'accidents ou de trouvailles ou de richesses supplémentaires qui vont venir dans le récit parce qu'il est dans l'instant.
Puis il y a quelque chose aussi qui est intéressant avec le théâtre, c'est que souvent, quand les personnes vont témoigner de l'histoire, elles sont comme nous, écrabouillées par l'histoire avec un grand H, et elles vont penser que ce qu'elles ont à raconter n'est pas intéressant. Alors que nous, on s'est vraiment attelé à travailler que sur des petites choses, que sur le concret, que sur le matériel, que sur les habitudes, que sur le lieu, l'espace clos. Donc, en fait, tout devient intéressant et l'histoire, elle redevient à hauteur.
Vas-y, fais ton truc.
Ah, j'essaye de préserver mon espace vital. Donc, je mesure la distance exacte entre moi et l'autre.
Ici, voilà. Pas d'écriture de plateau. Dans ce projet de recherche-création, on ne répète pas un texte.
On travaille sur des dispositifs. Par exemple, il y a un dispositif où on a un rectangle au sol qui représente un espace de cellules. Autour, il y a quatre chaises. Il y a la chaise de l'artiste, donc il y a Marie ou moi qui jouons sur le spectacle, qui intervenons comme metteurs en scène en direct de la scène. Il y a un espace du grand témoin ou de la grande témoin qui est souvent occupé par Alain ou Jean-Luc qui vont rectifier. Il y a Gaïd ou Fanny qui sont aussi assises à une place, qui vont redonner un éclairage historique. Et en même temps, à l'intérieur de ça, il y a une scène qui est une sorte de flashback, qui est raconté par un des protagonistes, qui est rejoint en direct avec quelqu'un qui n'a pas assisté à cette scène-là, qui devient le personnage extérieur qui va jouer tous les autres personnages autour de lui.
La scène se termine par une historienne qui dit « Et moi, ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ça ?» Donc en fait, l'idée, c'est qu'elle redécouvre des choses pendant la scène. On ne va pas figer l'écriture à la fin. Le spectacle va se construire sous les yeux des gens.
Alain Hamon, l'ancien surveillant, s'est mis au théâtre lui aussi.
Les exercices qu'on a faits, ça m'a permis de dire « Tiens, ça fait référence à ça. »
Les exercices qu'on fait, c'est vraiment de la méta-improvisation.
C'est quoi la méta-improvisation? Il y a une définition?
La méta-improvisation, c'est quelque chose qu'on a développé à la morsure, qui est une façon particulière d'improviser, où on joue à la fois la personne, l'acteur et le personnage.
On pense comme ça, on ne sait pas forcément la vérité. C'est quelque chose, l'imagination qui revient là.
Nous, on parle du voile de pudeur, puisque c'est aussi la différence, on parlait tout à l'heure du théâtre documentaire, c'est que le voile de pudeur, c'est la place de l'imaginaire du spectateur. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et en même temps, tout est vrai, puisque il part de lui, puis c'est lui qui raconte à partir de son expérience. Par contre, il peut parler à travers un autre personnage, mais c'est quand même son expérience qu'il va transmettre.
Il va pouvoir commenter ce qu'il est en train de faire, ce qu'il aime faire, s'il trouve qu'il a bien joué cette scène-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit ça.
On joue pas, faut être naturel, quoi. Faut que ça vienne de soi, quoi. Donc ça, c'est le plus dur, parce qu'on a tendance à dire oh, « est-ce que je suis bien, pas bien ?» Faut être naturel, quoi. Pour moi, c'est la plus grosse difficulté.
L'histoire de la prison Jacques Cartier s'est aussi transformée avec le théâtre. Une histoire encore plus attentive aux interactions. Fanny Le Bonhomme.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des questions de recherche en fait, qui ont émergé du théâtre, des choses qu'on n'avait pas saisies dans les entretiens un peu classiques ou participatifs.
Par exemple ?
Par exemple, le poids de la religion. Il y a eu aussi autre chose, il y a eu des moments où moi je me suis dit, en fait, c'est marrant ce qui se passe. Ça confirme en fait des concepts de sciences sociales ou des notions de sciences sociales. Par exemple, le fait qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans l'atelier en disant « voilà, je viens parce que je suis voisin ». En fait, il est voisin, mais il est aussi ancien détenu. Et il est aussi quelqu'un qui a mal vécu qui a fait le service militaire. Donc il a une expérience interinstitutionnelle, mais c'est aussi une sorte d'homme multiple, comme dirait Bernard Lahire. Et en fait, moi, je trouvais ça super que dans l'atelier théâtre, en fait, se confirme des hypothèses de recherche en sciences sociales, mais que ça se passe devant nos yeux, quoi. Il y a une scène où Alain, qui est un ancien surveillant, il explique comment il faisait pour savoir si un détenu simulait ou pas d'être malade. On imaginait le détenu, devant lui. Et puis là, il y a un des anciens détenus qui a dit « Ok, maintenant, moi, je vais vous montrer comment on fait pour simuler. » Il reprenait, on aurait dit, son agentivité. Il redevenait acteur, alors que la scène d'avant, elle l'avait prise pour objet. C'est des trucs qu'on essaye de décrire dans les archives, comment les acteurs reprennent un peu, donnent du sens à une expérience ou qu'est-ce qu'ils donnent, eux, comme subjectivité à leur manière, à leur pratique, à leurs expériences. On le voyait, en fait. Il y a un autre truc aussi qu'on a remarqué, là, au fur et à mesure des ateliers, c'est à quel point, déjà, d'être sur le plateau, ça change la manière de raconter les histoires pour les anciens acteurs comme pour nous. Et aussi, de voir une anecdote incarnée dans le corps, eh ben, on comprend différemment l'expérience que la personne est en train de raconter. Un exemple, un ancien détenu, donc Jean-Luc, qui nous racontait comment il communiquait avec les personnes qui étaient dans les cellules à côté à travers le lavabo. Mais de le voir en train de se baisser, de parler dans le lavabo, c'est l'expérience corporelle qui fait que nous, on perçoit différemment le récit, le témoignage, l'anecdote, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas mesuré au départ.
L'improvisation a aussi fait émerger un matériau inédit pour la recherche et des questions éthiques.
Marie, par exemple, qui a été dans l'atelier philo, elle est arrivée en nous donnant ses archives personnelles de l'atelier philo. Sophie, qui a été assistante sociale, elle est arrivée avec sa carte de bus. Ce qu'on aimerait bien tester dans l'atelier théâtre, c'est comment est-ce qu'on va faire rentrer aussi la lecture de l'archive historique dans le jeu et montrer un peu les interactions que ça peut avoir entre le récit qu'on se fait de son histoire et l'histoire que donne à raconter l'archive. Est-ce qu'il y a des contradictions, des tensions ?
Gaëlle Dandreau, historienne.
C'est un espace de réflexivité créé. Elle nous les donne comme des archives souvenirs. Et nous, on les transforme quand on les lit en source. À quel moment est-ce qu'on assume d'aller faire ce travail de source avec elle, alors qu'elle nous les a transmis comme des souvenirs, et qu'on la transforme en objet de science sociale, alors avec son consentement. Mais est-ce que, jusqu'à quel point les acteurs mesurent l'effet d'objectivation que ça fait ? On se dit que ça fait partie du cadre éthique qu'on doit poser. Le théâtre nous apporte un cadre dans lequel on peut produire un espace de réflexivité, et ils créent, comme disait Fanny, l'idée qu'eux-mêmes rentrent dans une démarche d'enquête sur leur propre histoire qui leur appartient.
Le théâtre, ça leur permet aussi de poser des questions sur les expériences des autres. Chacun arrive avec sa propre expérience de la prison, c'est très hétérogène, et ça permet aussi de mesurer à quel point son expérience, elle est ancrée dans une période, dans un contexte, dans un parcours de vie, et qu'elle est complètement différente de celle des autres. Et Marie et Christophe, ils créent des dispositifs qui font que chacun a sa place, mais que parfois on peut aussi être au service de l'histoire de l'autre. C'est pas rien en fait de se mettre au service de l'histoire de l'autre.
J'ai résisté à Jacques Cartier. J'ai eu faim à Jakarta. Je suis née à Jakarta. Ok, super, merci beaucoup. C'est super.
À Autun, 13 000 habitants en Bourgogne, l'ancienne prison a longtemps appartenu à une famille qui louait les cellules comme les boxes d'un garde-meuble. Depuis sa fermeture dans les années 50, sa reconversion n'a pas été une évidence, mais le chantier pour en faire un musée est aujourd'hui en cours. Agathe Legros, directrice des musées et du patrimoine à la ville d'Autun.
C'est plutôt une succession d'occasions qui ont petit à petit généré le projet du musée. Le musée historique, c'est le musée Rollin, qui se trouve à deux pas d'ici, donc dans l'ancien hôtel particulier de Nicolas Rollin, un bâtiment du XVe siècle, classé monument historique, très beau, très grosse collection. Et ça fait très longtemps que la ville cherche à rénover, étendre son musée. En 2002, la ville a l'occasion de racheter la prison. Donc à partir de là, il y a eu un projet d'extension du musée sur la prison, puisque les deux bâtiments sont vraiment voisins. Et ça s'arrêtait là. Et puis en 2009, avec la fermeture du tribunal de la ville d'Autun, eh bien la ville a récupéré le bâtiment du palais de justice et a englobé le palais de justice, qui est lui voisin de la prison, dans le projet du futur musée. On a eu ce matériau-là, on a eu cette opportunité-là, voilà, un musée plein cœur de ville avec ses avantages et ses inconvénients, ces bâtiments à côté qui n'ont rien à voir mais qui sont là aussi. Comment on va construire un projet à partir de ce lot immobilier qui nous est donné.
Donc là, on rentre dans la prison.
C'est d'abord pour l'intérêt patrimonial de cette prison ronde des années 1850 aux allures de gros pigeonniers que l'État a incité la ville d'Autun à la réhabiliter.
Parce qu'on est sur un témoin unique d'architecture panoptique presque originale.
Le principe du panoptique, c'est une surveillance à 360 degrés.
Ça correspond exactement au modèle de l'architecture panoptique de Jérémy Bentham au XVIIIe. Et on n'en a pas tant des vraies prisons panoptiques qui sont la traduction en pierre du plan qu'on connaît.
Et vous avez un énorme système de serrures qui ferme les deux portes d'un coup.
Je ne suis pas venue pour la prison. Je suis venue connaissant le musée Rollin, connaissant la réputation de ses collections, avec un grand désir de travailler sur ses collections magnifiques et avec un grand désir de faire un projet de musée. C'est, voilà, c'est quelque chose évidemment qui est extrêmement motivant. C'est un lieu très très fort. L'architecture est vraiment très forte. Ça ne vous laisse pas indifférent, quoi qu'il en soit. On peut trouver ça très beau, on peut trouver ça effroyable. Enfin bon. Et d'emblée, j'avoue que j'ai été surprise parce que, pour le coup, c'était une extension simple du musée. C'est-à-dire que, puisqu'on avait plus de place, on avait vraiment pensé mètres carrés. Alors, on gardait les cellules, mais c'était des cellules du coup thématiques. Donc, une cellule sur l'artisanat gallo-romain, une cellule sur la préhistoire. Enfin, voilà. Et puis, le palais de justice, où il y a un peu plus de hauteur sous plafond, mettait les grands tableaux. Enfin, je vous le caricature. Sauf qu'on n'est pas sur une aile neuve qu'on rajoute pour ajouter de la place. On est sur des lieux qui ont une histoire qui est forte. Donc, j'ai commencé à regarder la prison. Et puis, au-delà de l'architecture, qui était le sujet numéro un qui m'intéressait, moi, par rapport à mon projet de musée, pour savoir comment est-ce qu'on travaillait dans une architecture comme ça, sont venus tous les autres sujets. Qui s'y trouvait? Quelle était la vie là-dedans? Quelle est la place de cette prison dans ce qu'était la prison au XIXe siècle? C'est là où on a travaillé avec la Maison du patrimoine oral et Caroline Daroux, qui, elle, est arrivée avec un projet beaucoup plus approfondi et structuré. Sur l'aspect social des choses, où elle a même monté un groupe de recherche, où elle est allée creuser les archives de l'histoire politique de la prison, des personnes qui s'y sont trouvées, etc.
Monte encore un étage.
La Maison du patrimoine oral de Bourgogne, la MPOB, c'est un ethnopôle, un lieu de recherche associatif centré sur le territoire.
L'enjeu pour nous, c'était d'identifier un objet d'intérêt partageable avec une partie de la société locale. Hein. C'était un peu cette idée qu'on sentait bien et que du côté du service du patrimoine aussi, que c'était un lieu d'attachement, cette prison.
Caroline Daroux, anthropologue à la Maison du patrimoine oral.
Et là, ça nous semblait assez juste, cette situation avec ce lieu. On a fait un appel hein, aussi public, à dire si vous voulez travailler sur cette question, on va ouvrir des ateliers de recherche participative où on va aller chercher les archives aux archives départementales de Saône-et-Loire et on va travailler ensemble à reconstruire les récits des personnes qui étaient dans cette prison, les récits de vie, et peut-être les faire revivre un peu.
Attention à votre tête, même si on a un casque.
Jean Gagnard, c'est la rencontre qui aura fait bifurquer le projet de musée dans l'ancienne prison.
Je suis né en 1924 et puis la clémine, mon père était mineur.
C'est un vieux monsieur qui nous a appelés pour nous dire qu'il avait été prisonnier dans la prison d'Autun pendant la Seconde Guerre mondiale.
Agathe Legros.
C'était vraiment une des dernières personnes vivantes à ma connaissance qui avait été incarcérée dans cette prison, super important, mais c'est pas notre cœur de métier de prendre un témoignage. Donc on a appelé Caroline Daroux, sachant que la MPOB, c'est leur cœur de métier. Et donc Caroline a fait cet entretien. Après, ce n'est plus la ville d'Autun qui a missionné la MPOB, c'est la MPOB qui a monté son propre programme de recherche et a allé chercher des financements. Alors, et nous, on a été un des partenaires, finalement.
Observatoire populaire de la carcéralité, le projet Déprisonné a vu le jour en ligne, Caroline Daroux.
Nous, on n'était pas sur cette idée juste de raconter les histoires, c'était de redonner de la présence à des personnes. Il faut s'imaginer, dans la société, il y a des gens qui sont les plus relégués des relégués. Et ça, Michel Foucault en a très bien parlé, les gens dans les prisons sont les plus relégués des relégués. Et ce sont des personnes dont il ne reste plus rien, qui s'effacent complètement. Et le projet qu'on avait, c'était de renverser ce stigmate, de renverser cet effacement, de faire réapparaître. C'est un lieu qui était en train d'être oublié et qu'un processus patrimonial mené par la ville d'Autun allait remettre en visibilité. Ça devient un laboratoire à partir du moment où, quand on est en 2020, on est dans l'enfermement nous-mêmes avec le Covid. Quand on est à l'échelle de cette ville sur des préoccupations politiques, sur les questions de vidéosurveillance, en fait, il y a toute une série de choses qui font que ce lieu, tout à coup, il cristallise une possibilité de vraiment faire un laboratoire sur nous-mêmes, quoi, avec tous ceux que ça intéresse. Travailler les questions de recherche à partir de ce que les habitants du territoire vivent et à partir de leurs propres questionnements. Et la recherche, elle est au service de ça, et c'est à partir de là qu'elle va trouver ses méthodologies, en fait, en se basant sur, bien sûr, des principes et des protocoles scientifiques, mais l'objectif est de répondre à ces questionnements du territoire, des citoyens, pas au questionnement de recherche d'un universitaire.
Une recherche en éducation populaire qui trouvera finalement sa place comme médiation dans les cellules témoins du futur musée.
Tout ce travail m'a amené à penser, un, qu'on ne pouvait pas juste imaginer qu'on allait rouvrir un grand musée Rollin dans 5 ans. Voilà, donc il va falloir repenser ce que veut dire ce musée. Et deuxièmement, moi, ça m'a semblé très vite clair qu'on ne pourrait pas mettre d'objets, qu'on n'allait pas pouvoir utiliser la prison pour y mettre nos collections, que ce soit beaux-arts ou archéologie. Ou... Parce que la gestion du conflit entre le discours sur l'histoire de la ville ou les beaux-arts et tout ce que le lieu raconte de lui-même, moi, me semblait vraiment dommageable, en fait, par rapport à la visite même et à l'expérience que les gens auraient de ce musée. Il ne fallait pas aseptiser, et en termes de discours muséographique, c'était compliqué.
Vous visitez souvent le chantier ? J'essaie d'y aller au moins une fois dans la semaine.
Pour relier les bâtiments, un étage souterrain est en train d'être creusé. Quant au musée Rollin, entre-temps, il a changé de nom pour devenir le Panoptique d'Autun, avec le dessin de la prison circulaire en guise de logo.
C'est même plus une extension, en fait. C'est complètement une refonte du musée sur ces autres bâtiments centrés autour de la prison. Ça ne peut être qu'un changement d'identité profond pour le musée et pas juste une extension.
À Rennes, Valentine Roy n'a aucune date pour couper le ruban de ce nouveau Jacques Cartier, lieu culturel et citoyen.
L'une des prochaines étapes pour ce projet, ça va être le fait d'accueillir des espaces de travail pour artistes, artisans et un premier espace ouvert au public. Et c'est des espaces qu'on confie à un tiers, retenus sur un appel à manifestation d'intérêt. Et ce sont des espaces qui sont les anciens ateliers de travail des détenus. Intuitivement, on n'y aurait pas pensé en premier lieu. C'est les bâtiments les moins stimulants. C'est les derniers qui ont été construits. Ils n'ont aucun intérêt architectural. Mais c'est les plus capables, comme on dit, d'accueillir un occupant régulier. Autre cas intéressant, quand le centre chorégraphique est venu faire un week-end de danse un été, ils ont investi des cours qu'on n'avait pas identifié comme des espaces extérieurs accueillants pour un public.
Entre-temps, l'ancienne maison d'arrêt aura accueilli un ultra-trail, une résidence photo, des visites scolaires, de la danse et aussi des historiennes convaincues de leur rôle citoyen.
Ça fait 3 ans que finalement on est là, qu'on a réussi à démontrer avec justement tout le collectif que c'était intéressant, que ça intéressait les gens. On varie les supports en fait de médiation. On va pas en faire un musée d'histoire carcérale. Et donc ça nous va assez l'idée de l'ouverture. Si on, au contraire on prend cette ouverture comme une possibilité d'ouvrir encore plus les rencontres et la possibilité à ce collectif de gens de raconter leur histoire et des gens de venir et de poser toutes les questions qu'ils ont à poser et que pose le lieu. Au contraire, nous, ça fait un peu 2 ans qu'on ronge notre frein sur le côté, ça reste fermé et on reste encore petit bras, alors qu'en fait, cette prison, on a plutôt envie qu'elle soit ouverte au plus de gens possible, quoi.
Que ce lieu puisse réunir en fait des gens qui viennent d'horizons différents et qui s'intéressent à la prison pour des raisons différentes.
Et c'est là que ça devient politique. Et un peu tout l'enjeu, c'est de faire de la prison un objet commun, quoi. C'est justement de la démarginaliser, c'est-à-dire de dire, occupons-la avec tout ce qu'elle projette comme imaginaire contemporain multiple, dans lequel l'intelligibilité des sciences sociales a sa place. On a notre place, nous, à côté des autres et à égalité des autres, ouais. Mais on n'est pas les chercheurs au-dessus qui pensons le réel et on n'est pas non plus les gens pénibles universitaires qui ennuient tout le monde dès qu'ils parlent, mais juste, on est parmi cette pluralité d'acteurs, un des imaginaires contemporains possible qui donne du sens à ce lieu, à la fois assez exigeant, parce que scientifique, et en même temps le plus accessible possible, quoi.
Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it out of sight.
Prison désaffectée, des friches pas comme les autres. Un reportage de Chloé Le Prince avec Alison Vicrobeck à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Mathilde Rossigne-Meust est l'invitée de Grand Reportage. Vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire sociale des classes populaires, de la vieillesse et des institutions disciplinaires à l'époque contemporaine. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans les prisons et plus généralement les lieux d'enfermement ?
Alors, ce qui m'intéresse, je pense qu'il y a des choses qui ont été dites qui sont au démarrage de beaucoup de recherches sur les lieux d'enfermement. Ce que dit le comédien du rapport à la beauté, aux beautés contraires, il parle de la culpabilité de ressentir des émotions positives. Je pense qu'il y a, au départ de mon intérêt pour les lieux d'enfermement, un peu de ces émotions contradictoires. Et après, moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est de savoir la manière dont on vit dans un espace très contraint, dont on échange et dont la contrainte ne résume pas du tout l'existence quotidienne.
Et alors, vous avez travaillé sur le château de Villers-Cotterêts, qui est devenu cité internationale de la francophonie, un grand chantier architectural d'Emmanuel Macron. Mais vous vous êtes penché sur ses précédents usages, un dépôt de mendicité, puis une maison de retraite d'assez mauvaise réputation. Ces histoires-là, il n'est pas facile de leur faire une place dans un lieu devenu très prestigieux. Vous avez tout de même eu gain de cause.
Alors, longtemps, j'ai travaillé sur une maison de retraite qui était encore une maison de retraite, puisqu'elle a fermé la maison de retraite de Villers-Cotterêts, qui est dans le château de François Ier, a fermé en 2014. Et quand ça a fermé, il y a beaucoup d'archives et j'ai commencé à travailler sur ces archives alors que l'usage du lieu n'était pas encore affecté. On voit bien qu'il y a des temps de latence plus ou moins longs dans cette histoire d'affectation des lieux. Mais j'avais la certitude qu'il y avait un monceau d'archives qui permettait vraiment de documenter la vie des personnes âgées qui y avaient habité entre 1889 et 2014. Or, tout à l'heure, on a parlé des relégués de l'histoire. Les personnes âgées dans les institutions, dans les hospices, dans les maisons de retraite sont aussi pas mal dans la grande famille des relégués. Et j'étais persuadée qu'il fallait faire exister leur histoire. Donc au départ, je l'ai fait avec mes moyens d'historienne, en écrivant des articles, en écrivant un livre. Et puis à un moment, c'est devenu la cité de la langue française. Et là, j'ai eu, notamment avec les archivistes avec qui je travaillais à l'époque, une espèce de panique sur la disparition de cette histoire-là. Et cette disparition, elle s'est faite d'abord matériellement, puisque toute, par exemple, la grande cour de Villers-Cotterêts s'est vue dépavée, c'est-à-dire que les pavés du 19e ont été enlevés. Enfin, on a restauré un lieu qui n'était pas celui qui avait été habité par les acteurs sur lesquels j'avais travaillé. Et puis après, j'ai essayé, avec les archivistes, de proposer plein de choses pour que cette histoire ne disparaisse pas, et ça a échoué assez longtemps.
Est-ce que ça veut dire que les réticences sont fortes quand on veut exhumer des aspects assez sombres de notre histoire, qu'on n'a pas spécialement envie, dont on n'est pas très fier ?
Je trouve que tout le documentaire montre plutôt le contraire. Mais peut-être qu'il y a des lieux d'enfermement, enfin que les imaginaires des lieux d'enfermement ne sont pas du tout les mêmes. Hein. On le voit bien, l'imaginaire de la prison, on en a tous un déjà. Et on en a des exceptionnels et des fantastiques. Celui de l'évasion, celui... on a tous un imaginaire extraordinaire de la prison. Et je pense que pour les maisons de retraite, c'est pas du tout le cas. Et donc, je pense que se projeter dans une médiation autour des maisons de retraite et des personnes âgées, c'était moins simple, quoi.
Mathilde Rossigne-Meust, ça pose aussi la question de l'histoire qu'on veut faire. Quel type d'histoire on fait? Quel type de questions on pose? Dans le documentaire, on entend Christophe Lechevillé de la compagnie La Morsure qui parle des habitudes, d'une histoire à hauteur d'homme. L'histoire des routines, c'est évidemment moins spectaculaire, moins fantasmé aussi que l'histoire des évasions un peu pétaradantes comme ça, comme imaginaire carcéral.
Oui, c'est très différent de faire... Enfin, il y a plein d'histoires, en fait, qu'on entend dans le documentaire. Il y a l'histoire des bâtiments, l'histoire de leurs usages, l'histoire de leurs habitants successifs. Et là, on voit bien que on n'a pas tous les mêmes intérêts. Et il y a aussi les temporalités qu'on raconte. C'est-à-dire que là, le choix de la mise en scène, c'est visiblement d'insister sur ce qu'il y a de plus répétitif, de plus ordinaire. Mais finalement, ce qui fonde aussi le quotidien des institutions disciplinaires. Donc, c'est aussi au plus près des habitants que d'avoir choisi une histoire non exceptionnelle.
Alors, il y a des rivalités, même parmi les prisonniers, la parole de certains est perçue comme plus légitime que d'autres. La mémoire des prisonniers de droit commun, elle n'a pas la même valeur que celle des résistants ou des prisonniers politiques.
C'est intéressant, ça, souvent quand on raconte l'histoire d'une prison, on s'arrête souvent sur les temps de guerre, que ce soit la guerre d'indépendance algérienne ou la Seconde Guerre mondiale, qui sont des temps forts souvent dans l'histoire carcérale ou le temps des mutineries. Enfin, une fois de plus, ce qui retient, c'est l'événement et vous avez raison, hein, la légitimité des gens qui les occupent n'est pas du tout la même. Et on va voir des cellules de personnes célèbres. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les projets, jusqu'à celle de Guingamp, hein, qui est la prison la plus ordinaire de celle qu'on a vue, y a un intérêt pour leurs anciens locataires. Et d'ailleurs, ce qui est, moi, je trouve passionnant dans le projet de Jacques Cartier, c'est que les locataires sont aussi les surveillants. Or, on a souvent travaillé sur l'histoire des prisonniers et le personnel, et notamment le personnel qui n'est subalterne, quasiment jamais. Et donc là, on voit que ça donne un éclairage et une légitimité aussi à cette histoire-là qui est très forte.
Et alors, sauver les murs, préserver un site à l'architecture remarquable, je dis ça parce que par exemple, Guingamp, ça a été classé monument historique, c'est un peu ça qui a sauvé la prison. C'est évidemment pas la même chose que de sauver la mémoire d'un lieu, de ses usagers. Est-ce que ces deux conceptions entrent souvent en conflit ?
Alors ça peut entrer en conflit. À Villers-Cotterêts, ça entre la beauté du lieu n'est pas conforme à l'histoire peu reluisante d'une partie de l'histoire de la France, hein, de l'État social.
D'où la difficulté de les faire cohabiter.
Voilà, et c'est compliqué de les faire cohabiter. Néanmoins, ce qu'on voit là, c'est à quel point en fait on arrive à avec des positions au départ assez antagonistes comme à Autun, on voit bien qu'on arrive à créer du commun autour du patrimoine, à condition, et je trouve que c'est assez fort, là ça se voit, à condition qu'il y ait quand même aussi une volonté politique à un moment de garder ces lieux-là. Le maire de Guingamp, il dit le patrimoine, c'était un levier pour redorer l'image de la ville. Enfin, je ne sais pas comment il le formule, mais à peu près comme ça. Mais on voit bien que là, l'histoire a joué aussi ce rôle-là.
Parce que c'est vrai que ces projets de réhabilitation, ils coûtent quand même assez cher. Et donc, ils ont besoin de soutien politique et de soutien financier. Sinon, ça ne se fait pas.
Ils coûtent cher et comme c'est des terrains en ville, les raser, ce serait la solution économique la plus rentable probablement.
Et une réhabilitation avec usage coûte plus cher, c'est-à-dire réinvestir les lieux pour en faire une école, un centre d'art comme à Guingamp ou un musée à Autun, ça coûte plus cher que de juste en faire des lieux visitables en tant qu'ancienne prison. Vous disiez il faut une volonté politique, il faut du temps aussi. Le point commun de ces projets, c'est qu'il y a des innovations méthodologiques dans la manière de faire l'histoire et qui déplacent les rôles des uns et des autres, des unes et des autres. Et en même temps, Alain Hamon, le surveillant, n'est pas non plus historien pour autant dans cette histoire participative.
Ouais, on voit bien les dispositifs de recherche qui sont lancés dans les différentes situations, soit des dispositifs pédagogiques à Guingamp, soit des prisonniers avec l'ethnopole, soit toute la collecte qui est faite au départ par Jacques Cartier, puis la pièce de théâtre où elles sont allées chercher par voie de presse des gens qui avaient été concernés de près ou de loin par l'histoire de la prison pour créer un récit commun sur scène de la prison de Jacques Cartier. On voit bien que tout ça prend du temps. Alors on sait que le travail sur archives prend énormément de temps et est solitaire. Et là, on voit bien aussi que créer des données, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi déstabiliser les données qu'on a déjà, qui est intéressant. Et on voit bien dans le dispositif scénique là, que la parole qui surgit, c'est pas uniquement pour l'enregistrer et l'archiver, que c'est aussi une façon de remettre en cause les savoirs existants.
Mais alors justement, ce recours au théâtre et en plus là au théâtre d'improvisation, il n'y a pas un risque de prisme déformant, d'une tentation de création plutôt que de restitution ?
Alors, il me semble que, alors, la pièce, elle est pas achevée et je l'ai pas vue, mais j'ai l'impression que le respect strict des rôles de chacun, et même à un moment, ils disent que chaque personne joue à la fois, enfin, chaque individu joue à la fois la personne, l'acteur, le personnage, avec des rôles très bordés plutôt, où chacun sait ce qu'il joue et on n'est pas dans l'invention, enfin, parce qu'on pourrait se dire, qu'il y a ce risque-là, ce risque de glissement, mais,
le fait même un souci de rigueur.
Voilà, il y a une rigueur très forte et il y a des cadres formels en fait très 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 importants.
Et les historiennes ont aussi fait l'histoire orale de ces protagonistes, c'est-à-dire que tout ne se tient pas dans le spectacle.
Et c'est accepter aussi une forme de fragilité du discours de l'histoire. C'est aussi ça les murs, le patrimoine, l'histoire du patrimoine. Elle a une solidité que n'a pas l'histoire sociale des individus. Et c'est ce qui en fait toute sa richesse.
Donc vous partagez l'enthousiasme de ces historiennes pour la recherche participative.
En tout cas, je trouve que les résultats sont très très convaincants.
Et alors, quand on transforme une ancienne prison en hôtel, en centre commercial ou en bureau, est-ce que vous y voyez, vous, un détournement, un mauvais usage du lieu ?
Si vous me demandez, je crois que je préfère que ça soit un lieu de réflexion collective et plutôt qu'un bar à jus, pour reprendre la formule du documentaire. Je pense que c'est quand même une chance énorme de pouvoir laisser du temps à la réflexion sur le bon usage. Et le bon usage, c'est celui qui correspond à l'usage de la collectivité, c'est à l'usage citoyen. Et à mon avis, il n'y a pas de primat pour la recherche, mais il y en a peut-être moins à ce que ça devienne un centre commercial.
Alors, les anciennes prisons ne sont pas toutes réhabilitées. Il y a au moins autant de démolitions que de rénovations. C'est quelque chose que vous regrettez, vous ?
Je ne sais pas si je le regrette. Je pense que ce qui est embêtant, c'est quand on rase trop vite, sans faire de fouilles, sans documenter. On ne peut pas avoir une position conservatrice à l'égard du patrimoine. Ça risque aussi d'entraver le présent. Ce qui est embêtant, c'est quand le temps de la réflexion n'est pas pris, quand il y a des intérêts qui pressent en fait les choses.
Donc il faudrait systématiquement accepter de se donner un petit temps pour récolter un minimum de données avant de laisser un bâtiment trouver une nouvelle destination, qui n'est d'ailleurs peut-être que provisoire.
Mais disons qu'on donne souvent ce temps à l'archéologie, alors qu'on la donne moins souvent à l'histoire des gens qui ont habité un lieu, et notamment quand c'est un lieu socialement déprécié.
Merci Mathilde Rossigneux-Méeust. Chloé Leprince signait le grand reportage de cette semaine, Prison désaffectée, défriche pas comme les autres. Réalisation Alison Vicrobeck, à la technique Anthony Thomasson, documentation Christine Anzano, Caroline Roy et Véronique Lefaller. Vous retrouverez cette émission de la rédaction sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr.